VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 13h à Bamako et à Dakar. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, l'ex-chef de la junte guinéenne, le petit capitaine Moussa Dadis Camara, a l'ambition présidentielle compromise par le massacre du stade de Conakry en 2009, exilé au Burkina Faso depuis 5 ans, est rattrapé par la justice qui l'a inculpé hier. La répression de la manifestation des opposants à la candidature à la présidentielle de Monsieur Camara, le 28 septembre 2009 à Conakry, avait fait au moins 157 morts et 109 femmes avaient été violées. Dadis Camara avait alors incriminé l'armée qu'il qualifiait d'incontrôlable. Au Congo-Brazzaville, l'opposition se félicite des remarques du président français François Hollande à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso sur la nécessité de préserver les institutions et de mener des réformes constitutionnelles sur la base du consensus. On écoute l'opposant Pascal Tsati Mabiala, leader de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale à Brazzaville.
Le président de la République, M. Sassou Nguesso, est au terme de son second et dernier mandat. À quelques mois de l'élection présidentielle à laquelle, constitutionnellement, il ne doit pas se présenter, il engage une grande réforme des institutions. Ce qu'il aurait pu faire en 2009, lorsqu'il a été réélu, il avait 7 ans pour le faire. C'est quand même un grand chantier qu'il veut ouvrir à quelques mois. Et c'est pour ça qu'il y a le soupçon de quelque chose derrière cette réforme des institutions qu'il engage. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, ce n'est pas opportun. Maintenant, c'est votre droit constitutionnel, nous vous le concédons. S'il doit avoir une réforme, mais la réforme ne doit pas toucher aux articles que nous appelons ici chez nous les verrous constitutionnels, c'est-à-dire sur le nombre de mandats, notamment.
C'était Pascal Tsati Mabiala, leader de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Il était joint à Brazzaville par Timothée Donangmaï. Au Nigeria, le gouvernement est prêt à entrer en pourparlers avec le groupe islamiste Boko Haram. Une offre faite malgré la promesse du président Muhammadu Buhari de ne pas négocier avec des terroristes. Par ailleurs, les autorités nigérianes disent avoir arrêté le suspect qui aurait planifié les attentats à la bombe, responsable de la mort de plus de 70 personnes dans les localités de Jos et Zaria cette semaine. Le point avec Camille Grosdidier.
Selon le ministère nigérian de la Défense, ces attaques n'ont pas été revendiquées par Boko Haram, mais portent la marque de la milice djihadiste. Le suspect a été interpellé en compagnie de 2 autres individus à un point de contrôle de la ville septentrionale de Gombe, près du bastion de la secte. Plus de 200 personnes sont mortes au total la semaine dernière dans une série d'attentats à travers le pays. Les opérations menées ces derniers mois par les armées nigérianes, tchadiennes et des autres pays voisins ont fortement réduit les territoires contrôlés par Boko Haram et ses capacités, rappelle Reuters, mais les récentes attaques dans le centre du pays pourraient indiquer que le groupe cherche à déplacer ses actions plus au sud et à l'ouest, vers la capitale fédérale Abuja, ajoute l'agence.
Chris Burundes, le représentant spécial des États-Unis pour les crimes de guerre, estime que les responsables des violences en cours au Burundi pourraient faire face à des poursuites judiciaires. Les explications de Bagassi Koura.
Dans une interview hier avec le service d'Afrique centrale de la VOA, Stephen Rapp a déclaré que les manifestants pacifiques continuent d'être pris pour cible par balle dans les rues de la capitale Bujumbura. Il a affirmé que les États-Unis sont particulièrement préoccupés par les violences commises par les Imbonerakure, la milice de la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Selon M. Rapp, ceux qui sont impliqués dans ces violences et autres tueries au Burundi vont probablement finir devant la Cour pénale internationale. L'ambassadeur Rapp, qui a servi comme procureur du tribunal spécial pour la Sierra Leone et comme substitut du procureur au tribunal pénal international pour le Rwanda, a exhorté les acteurs politiques burundais à éviter de jouer la carte ethnique.
Au Burkina Faso, consultation hier entre le président de la transition, Michel Kafando, et son premier ministre, Yacouba Isaac Zida, alors que des rumeurs font état de tensions entre ces deux leaders dans un pays en crise politique depuis une dizaine de jours. L'armée burkinabé, et en particulier le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui fut le bras armé de l'ex-président Blaise Compaoré, exige le limogeage du lieutenant-colonel Zida, qui est pourtant le commandant adjoint de ce régime d'élite. Et puis conflit au Soudan du Sud, vive critique de la conseillère présidentielle américaine pour la sécurité nationale Susan Rice contre les belligérants sud-soudanais à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Dans un communiqué aujourd'hui, Madame Rice accuse le président Salva Kiir et son rival, l'ex-vice-président entré en rébellion Riek Machar, d'être directement responsable de la guerre civile. Elle ajoute que Washington continue de soutenir les efforts des partenaires régionaux du Soudan du Sud qui cherchent à mettre fin au conflit.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Une page un peu plus magazine maintenant. Facebook vient d'ouvrir son premier bureau en Afrique, à Johannesburg. D'autres devraient être inaugurés plus tard dans plusieurs pays africains, au gré de l'aval des autorités en place. Le géant des réseaux sociaux se dit enthousiaste par son nouveau statut sur le continent. Mais vu la réputation des dirigeants africains par rapport aux opinions qui leur sont défavorables, cette relation risque d'être plutôt compliquée, Michel Joseph.
Facebook n'a pas cherché à innover pour solidifier sa position sur le continent africain. Ce géant des médias sociaux l'a fait, pas dans le virtuel, mais en ouvrant son premier QG africain à Johannesburg. Cette décision ne va pas entraîner de changement soudain pour les 120 millions d'utilisateurs de Facebook en Afrique. Et les intentions de l'entreprise sont simples, a rassuré sa responsable de politique publique, Ebele Okobi. Nous voulons en savoir davantage sur l'Afrique et nous désirons servir nos clients, individus et entreprises, à travers le continent. Donc, mieux cerner la nature de la clientèle au Nigeria ou en Afrique du Sud, par exemple, et adapter nos produits et nos plateformes aux besoins de ces consommateurs. Voilà le plus important résultat à espérer de cette initiative. Facebook a lancé plusieurs initiatives dans un passé récent pour sécuriser sa part du marché africain. La compagnie a lancé une version simplifiée de son application pour les téléphones bas de gamme. Elle a introduit un programme permettant aux clients de cliquer sur une pub et recevoir un appel gratuit du commanditaire. Les dirigeants de Facebook sont discrets sur leurs prochaines initiatives en Afrique, mais leur approche commerciale est claire. Ils ne manquent pas de publier des témoignages de propriétaires de petites entreprises vantant les effets bénéfiques du réseau social. Mais, fait remarquer Ebele Okobi, le site joue aussi un rôle clé dans la vie politique et sociale sur le continent.
You have NGOs who are using Facebook.
Des ONG s'en servent pour un effort de transparence. C'était le cas au Nigeria lors des dernières élections. Des hommes politiques nigérians utilisaient notre plateforme pour atteindre directement les citoyens. Entre la liberté d'expression et le besoin de contrôle que souhaitent les autorités politiques, un équilibre délicat doit être trouvé, selon Ebele Okobi. Il s'agit de comprendre non seulement comment les abonnés peuvent utiliser cette plateforme pour communiquer, échanger et exercer leur droit à la liberté, mais aussi comment fonctionnent les lois réglementant l'activité des médias dans chaque pays. Et le problème n'est pas exclusif à Facebook. Tous les médias sociaux y font face, en Afrique comme ailleurs.
Et puis l'actualité, en bref, dans le reste du monde. La Grèce, encouragée par des premiers commentaires positifs, mettait la dernière main aujourd'hui au nouveau programme de réforme avec lequel elle espère convaincre ses partenaires européens de reprendre leur aide financière et de la garder dans la zone euro. En Syrie, au moins 19 civils, dont 5 enfants et une femme enceinte, ont été tués mercredi soir par des bombardements entre le régime syrien et les rebelles dans la métropole d'Alep. Et puis en Égypte, 15 policiers blessés dans l'explosion d'une bombe dans le Sinaï visant leur véhicule. Pour terminer, actualité américaine, en Caroline du Sud, l'État où un jeune blanc raciste a tué 9 noirs dans une école le mois dernier, adoption par les deux chambres du Parlement local d'une loi ordonnant le retrait du drapeau sudiste confédéré de l'enceinte de ce Parlement. Le drapeau en question est considéré par beaucoup de Noirs comme le symbole de l'esclavage et du racisme. Il devrait être transporté dans un musée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Restez avec nous 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.